Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans le chapitre 10 de la Genèse, Genèse chapitre 10, on va regarder tout le chapitre. Alors, or, ce sont ici les générations des enfants de Noé, Sem, Cam et Japheth, auxquels naquirent des enfants après le déluge. Les enfants de Japheth sont Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et les enfants de Gomer, Askenaz, Riphath, Togarma, les enfants de Javan, Elisa, Tarsis, Kittim et Dodanim. De ceux-là furent divisées les îles des nations par leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille et entre leurs nations. Et les enfants de Cam sont Cush, Misraïm, Put et Canaan. Et les enfants de Cush, Seba, Avila, Sabta, Rab, Rama et Sebteka. Et les enfants de Rama, Seba et Deda. Cush engendra aussi Nimrod, qui commença d'être puissant sur la terre. Ce fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on a dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son règne fut Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Sinar. De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive et les rues de la ville et Cala, et Rézen entre Ninive et Cala, qui est une grande ville. Mitzraïm engendra Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Patrusim, Cachlusim, Cachluhim, lesquels sont issus les Philistins et les Caphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son fils aîné, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens et les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amatiens. Et ensuite, les familles des Cananéens se sont dispersées. Et les limites des Cananéens furent depuis Sidon, quand on vient vers Guérar, jusqu'à Gaza, en tirant vers Sodome et Gomorre, Adma, Tseboïm, jusqu'à Léza. Ce sont là les enfants de Cam, selon leur famille et leur langue et leur pays, et en leur nation. Il naquit des enfants à Sem, père de tous les enfants d'Héber, et frère de Japheth, qui était le plus grand. Et les enfants de Sem sont Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Et les enfants d'Aram, Us, Ul, Geter et Mas. Et Arpachshad engendra Séla, et Séla engendra Héber. Et Héber et à Héber naquirent deux fils. Le nom de l'un fut Péleg, parce qu'en son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère fut Joktan. Et Joktan engendra Almodad, Séleph, Atsarmavet et Géra. Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là sont les enfants de Joktan. Et leur demeure était depuis Mesa, quand on vient en Séphar, montagne d'Orient. Ce sont là les enfants de Sem, selon leur famille et leur langue, en leur pays et en leur nation. Telles sont les familles des enfants de Noé, selon leur lignée, en leur nation. Et de ceux-là ont été divisées les nations sur la terre après le déluge. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Notre Dieu, nous savons que les Saintes Écritures sont riches, sont parfaites également. Tu nous le dis dans ta parole, ta loi est parfaite. Alors, bien sûr, le chapitre 10 a été placé là par toi pour des raisons bien particulières, et c'est ce que nous allons essayer, Seigneur, de découvrir aujourd'hui, et, Seigneur, de découvrir la richesse, la beauté et toute la grâce qu'il y a à l'intérieur de chacun des chapitres des Écritures. Que ton esprit, Seigneur, nous éclaire et nous guide et nous fasse comprendre ce qu'on a à comprendre, Seigneur, pour voir tout ce qui concerne Christ dans les Écritures, afin que nous puissions l'élever. Et Seigneur, nous te demandons ta bénédiction ce matin. C'est en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on te prie. Amen. Alors, j'ai intitulé la leçon aujourd'hui « Les nations, des outils prophétiques de Dieu ». Alors, on voit que quand on regarde le texte, qu'on l'analyse un petit peu, un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'il y a trois choses qui sont mentionnées à l'intérieur de ce chapitre-là. D'abord, il y a Japhet. Il commence par Japhet, et on sait que Japhet voulait dire qu'il s'étende. Et donc, le Seigneur va se servir de Japhet comme un outil prophétique, un outil d'expansion. On va voir que Japhet s'est répandu sur toute la terre par différentes... On va le regarder au cours de la leçon. Qui étaient les descendants de Japhet et comment cela a contribué à ce que le salut s'étende à toutes les nations de la terre. C'était bien important de le voir. Donc ça, c'est dans le verset 1 à 5. On parle surtout des fils de Japhet et du rôle qu'ils vont avoir dans le développement, dans l'expansion des nations que le Seigneur veut inclure dans sa grâce. La deuxième nom qui est mentionné, c'est celui de Cam. Et Cam, on va voir que dans le fond, Satan s'est servi des descendants de Cam bien souvent pour devenir un outil d'opposition à l'Évangile. Opposition au peuple d'Israël. On va voir que les descendants de Cam ont souvent été utilisés par Satan comme étant des outils d'opposition à la grâce, au développement du royaume, et sont devenus souvent des ennemis d'Israël. Et le troisième qu'on va regarder, c'est que Sem, on sait que Dieu l'avait béni d'une façon particulière à cause que lui et son frère Japhet avaient caché la nudité de leur père quand ils s'étaient enivrés, et Dieu avait promis une bénédiction particulière. Et la plus grande bénédiction particulière qui s'adresse à Sem, c'est celui que de sa lignée viendrait le Messie. Alors j'ai appelé les versets 21 à 32 un outil de réalisation ou un outil d'accomplissement. Il va servir de Sem, de sa descendance va venir le Messie. Donc, à quelque part, quand on regarde les trois grands, tout le monde qui sont sur la terre viennent de l'une de ces trois branches-là. Alors, où on vient de Japhet, où on vient de Cam, où on vient de Sem. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, en particulier, avec ce passage-là, je voudrais corriger quelque chose. La Bible nous dit, les Écritures nous disent que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et est utile, et on sait 2 Timothée 3:16. Cependant, moi je sais par expérience, parce que quand j'arrive, chaque fois que je lis ma Bible d'un couvert à l'autre, et que j'arrive sur un chronique, on dirait que j'ai comme un petit break. Ça ne me tente pas de lire ça parce que, pourtant, c'est très, 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 très important, mais ça ne me tente pas de lire ça parce que c'est juste une énumération de noms. Ça semble, on ne voit pas l'utilité de tout ça à première vue. Et ça, je pense que on a le besoin comme chrétien de corriger cette fausse conception-là qu'on a de voir les énumérations et les généalogies dans les Écritures quasiment comme quelque chose d'inutile. Même j'ai entendu des personnes me dire, dans ma vie, là, une chrétienne qui m'a dit une fois, « Moi, je suis plus capable de lire ça, vous l'en dites, ça me dépasse, c'est trop fort, je suis plus capable. » À quelque part, je pense qu'il y avait quelque chose à corriger dans sa conception de ce que c'est l'inspiration des Écritures. Si Dieu nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, ça veut dire soufflée de Dieu, par le Saint-Esprit, les générations, des fois on appelle ça généalogie, d'autres fois on appelle ça les générations, c'est d'une importance extrême, et on ne se doit pas de mépriser cela, ni de les négliger, ni de les sous-évaluer. Alors on doit corriger cette grave erreur-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes les saintes écritures sont utiles et toutes les saintes écritures sont divinement inspirées. On a nommé le verset tantôt, on va aller le lire. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Alors, je le lis dans la version Sterval. Toute l'écriture. Alors ici, il ne dit pas toute l'Écriture, moins le chapitre 10, moins 1 Chronique 1 à 16, moins Matthieu 1, moins Luc 3. Toute l'Écriture est divinement inspirée. Et dans le grec, c'est littéralement, si on le traduisait littéralement, là, c'est soufflé de Dieu. Dieu souffle dans sa parole. Et après ça, ça nous mentionne des choses concernant ces Écritures-là. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Voyez-vous, ce matin, on essaye de prendre les Écritures pour corriger une fausse conception qu'on a par rapport à certains passages, et pour former à la justice. Et voyez-vous, ça nous dit la raison, dans le verset 17, « afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, le rôle des généalogies dans les Écritures, on ne se doit pas les mépriser, de passer par-dessus puis de dire « c'est plat ». Parce que quand on dit ça, on est en train de dire à Dieu « ce que tu dis, c'est plat ». C'est gros, là. C'est vrai que c'est gros. Quand on s'arrête pour y penser. Alors, l'utilité des généalogies peut se démontrer par les faits suivants. Alors, maintenant, je vais vous donner des faits qui démontrent l'utilité des Écritures. Alors, la première, c'est qu'elles assurent la vérifiabilité des promesses de Dieu. Voyez-vous, dans Genèse 3:15, Dieu a fait une promesse. Maintenant, comment on peut vérifier si Dieu a tenu sa promesse? Bien souvent, c'est par les généalogies. Alors, si on passe par-dessus, on les méprise, on vient de manquer le bateau, c'est quelque chose d'important. Alors, les généalogies vont assurer la vérifiabilité des promesses de Dieu. Autre chose, elles vont nous donner la certitude de l'accomplissement des prophéties bibliques. Voyez-vous, Genèse 9, ce qu'on a vu la semaine précédente, les promesses que Dieu a fait concernant les trois grandes lignées, Sem, Japheth, Cam. Si on veut savoir si ce que Dieu a dit se réalise, avec quel outil on peut utiliser pour démontrer que que Dieu vraiment accomplit ses promesses, ses prophéties. Alors, il avait fait des prophéties sur Sem, fait des prophéties sur Japheth et sur Cam, et on peut facilement, à l'aide des généalogies, de démontrer, et ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Autre chose qu'elles servent, et là, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui le font, mais on devrait peut-être, ça sert à dénoncer certains mensonges du monde. Par exemple, l'évolution. Quand on parle que la Terre a des milliards d'années et qu'on prend les généalogies, qu'on regarde fils d'eux, il ne peut pas y avoir des millions d'années, là. C'est impossible. Alors, on a deux choix. Là. On est placé devant un choix. Ou on croit ce que Dieu dit, ou on croit ce que le monde affirme. Alors, ça sert parfois à dénoncer certains mensonges, par exemple l'évolution, le vieil âge de la Terre. Moi, souvent, j'écoute la télévision des fois, puis ils nous parlent de voilà 600 millions d'années, voilà 3 milliards d'années, alors que les Écritures nous parlent de entre 6 et 10 000, maximum 10 000, mais 6 000 années depuis le début de la création. Si on croit les Écritures, on est capable de dénoncer les erreurs du monde. Mais c'est tellement, ça nous environne tellement par tous les médias, par à peu près tout ce qui existe, que la radio, le système d'éducation, qu'on est porté à mettre en doute les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Mais c'est avec les généalogies qu'on est capable de démontrer que c'est pas si vieux que vous prétendez être. Autre chose que les généalogies peuvent nous démontrer, peuvent nous aider à dénoncer le racisme. Et on se dit, ben là, nous autres, ça ne nous touche pas, on n'est pas tellement racistes au Québec. C'est vrai que le Québec n'est pas la société la plus raciste qui existe. Cependant, voilà pas tellement longtemps, en 1939-1945, durant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu dire que les êtres, que les descendants, que l'origine des Allemands était ailleurs que dans les trois branches, était comme une race supérieure. Et de là est venu tous les problèmes qui ont eu lieu. Alors, le passage qu'on va étudier aujourd'hui nous montre une chose. C'est que l'être humain, l'ensemble de l'humanité, tire son origine de trois branches. Sem, Cam et Japhet, donc on est toute l'humanité. Donc, c'est important, ça nous aide à dénoncer des mensonges du monde. Autre chose, ça nous manifeste la force de la providence divine dans le gouvernement des peuples de la terre et l'établissement de leurs frontières. Je pense qu'on pourrait y aller, ou on va y aller plutôt dans la conclusion. Ce que je veux dire par ça, c'est que les Écritures nous disent, par exemple, dans Daniel 4, les versets 17, 25 et 37, je pense qu'on va y aller. On va prendre le temps d'y aller. C'est important. On va aller dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, les versets 17, 25 et 37. Alors, dans le chapitre 4, dans la version Martin ici, ça dit « La chose est par le décret des veillants et la demande avec la parole des saints, afin que les vivants connaissent que le souverain domine sur le royaume des hommes. » Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que c'est Dieu qui domine sur les gouvernements de la terre. Souvent, on est porté aujourd'hui à partir en peur, à avoir peur de tout ce qui se passe sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on oublie que l'Éternel est au-dessus de tout cela et qu'il contrôle tout cela. Voyez-vous, ça dit qu'il domine sur les royaumes de la terre et qu'il le donne à qui il lui plaît. Autrement dit, les gouvernements qui sont sur la terre, c'est Dieu qui les donne à qui il lui plaît. Et il y établit le plus abject des hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire aussi? C'est que Dieu, parfois, pour corriger une nation, pour punir une nation, va permettre que le plus abject, un des plus abjects de la nation, s'élève au pouvoir. Et c'est la manière de Dieu de corriger le peuple qui sont tombés dans des graves péchés. Alors, on apprend quelque chose d'important ici. Après ça, on a, dans le verset 25, ici on parle de Nabuchodonosor, c'est qu'on te chassera d'entre les hommes, ton habitation sera avec les bêtes des champs, et on te paîtra d'herbe comme les bœufs, et tu seras arrosé de la rosée des cieux, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le souverain domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voyez-vous, il a pris le souverain le plus élevé de l'époque, le plus puissant de l'époque, il l'a réduit à agir comme un animal, manger l'herbe des champs. Et il a dit, tu vas rester là pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui domine sur le royaume des hommes. Et après ça, on a le verset 37. Maintenant donc, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, duquel toutes les œuvres sont véritables, ses voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Autrement dit, si on étudie l'histoire des hommes, l'histoire des gouvernements, l'histoire de la politique, l'Éternel permet que certains hommes s'élèvent, et du jour au lendemain, des fois certains hommes très puissants, pouf, tombent zéro, plus rien du tout, sont tués, sont emprisonnés, sont jugés, toutes sortes de choses comme ça. Et les Écritures nous apprennent que ce n'est pas des hasards. Il faut apprendre à regarder la politique internationale à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière que Dieu domine. Maintenant, on va aller voir un autre passage qui est important. Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Deutéronome, parce que ça a un lien avec ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 32, et le verset 8. Quand le souverain, ici quand on parle du souverain, le souverain, bien sûr on parle de Dieu, quand le souverain partageait les nations, quand il séparait les enfants des hommes les uns des autres, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre ici dans ce passage-là? C'est que Dieu a établi les nations autour d'Israël, mais c'était en fonction de la nation d'Israël. Autrement dit, Dieu a dit, je vais placer Israël à un endroit, et toutes les nations que je vais placer autour, c'est moi qui vais les placer là, dans un but précis, pour... Alors, autrement dit, la disposition, les lieux géographiques, ce qu'il dit, il établit les bornes des peuples, autrement dit, leurs frontières, selon le nombre des enfants d'Israël. Autrement dit, la distribution géographique des nations autour d'Israël est théocentrique, israélocentrique. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, je vais prendre la nation d'Israël et les nations qui vont l'entourer, ça ne sera pas un hasard. Ça va être pour arriver à des buts concrets concernant le peuple d'Israël. Alors, ça, c'est un deuxième aspect qu'on va voir. Parce que dans les prochaines le livre de la Genèse, on dit souvent, c'est le livre des commencements. Alors, on va voir comment les nations se sont répandues autour d'Israël et comment tout cela a contribué à ce que Israël soit maintenu. Alors, les guerres qu'il y avait entre les différentes nations, Dieu se servait de ces choses-là pour permettre une certaine stabilité de la nation d'Israël pour qu'elle passe à travers. Et une autre qui est très, très, très importante, et après ça, on va commencer vraiment notre texte d'aujourd'hui. On va aller dans le livre des Actes, si vous voulez venir avec moi. On va aller dans Actes 17. Actes 17, les versets 26 et 27. Et ici, tantôt, on disait que les Écritures et les généalogies en particulier peuvent nous aider à déterminer certaines erreurs, par exemple le racisme. Ici, ils vont nous dire... Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain. Alors, quand on prétend qu'une nation, comme les Allemands, ou quelque nation que ce soit, là, c'est pas la première nation qui fait du racisme sur la Terre, mais on la prend comme exemple parce que c'est proche de nous, et c'est dans notre mémoire. Et ici, ça dit, il parle de Dieu. Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain. Alors, quand quelqu'un prétend que la nation est supérieure, on parlait de la race aryenne à l'époque, qui était supposée d'être vraiment supérieure aux autres à cause de son origine. Alors, à l'époque, il y avait eu des savants allemands qui avaient voulu démontrer cela avec toutes sortes d'études. Mais ici, ça dit, on parle de Dieu, il a fait d'un seul sang tout genre humain. Oh! Ça vient de détruire complètement l'idée raciste que ces gens-là voulaient utiliser. Et ça dit, pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leur habitation. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Ce verset-là nous dit que toutes les nations qui sont sur la terre, que ce soit les Grecs, les Romains... ont été établis par Dieu et leur borne, on parle de leur territoire, on parle de leur... comment ils appellent ça? Leur limitation, autrement dit, tu vas avoir des... à gauche, ça va être tel fleuve qui va se séparer de l'autre. Les séparations géographiques, autrement dit. Les frontières, c'est le mot que je cherchais depuis tantôt, excusez-moi. Les frontières ont été établies par Dieu lui-même. Et tout le cours de l'histoire humaine est sous ce principe-là. Il n'y a pas de nation qui est née, il n'y a pas de nation qui a grandi, qui a pris du pouvoir ou qui a rétréci son pouvoir sans que Dieu ait intervenu. Prenons un exemple bien concret. À l'époque de Jésus ou à l'époque de l'Ancien Testament qu'on parle ici, là, quelle nation s'était élevée qui était terriblement puissante à l'époque? Il y avait les Égyptiens, bien entendu. Aujourd'hui, alors que l'Égypte, à cette époque-là, avait un rôle international épouvantable, un rôle militaire épouvantable, maintenant, ils sont réduits à une petite nation insignifiante. Comparativement, par exemple, à la puissance, je sais pas, des États-Unis ou de la Russie, c'est petit, là. Alors, Dieu a pris ce qui était grand à l'époque, il l'a réduit à très petit. Et il a fait ça avec... Durant tout le cours de l'histoire, Dieu, ça dit ici que c'est lui qui a étendu les hommes sur la terre et lui a déterminé. Alors, c'est lui qui détermine les saisons qu'il a établies. Autrement dit, les saisons, c'est en train de dire le temps. Le temps que l'Égypte va être puissante est déterminé par Dieu. Leur frontière est déterminée par Dieu. Ça peut grandir comme ça peut rapetisser. Et les bornes de leurs habitations. Verset 27, « Afin qu'ils cherchent le Seigneur pour voir s'ils pourraient, en quelque sorte, le toucher en tâtonnant et le trouver, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Trois principes très importants. On revient. Daniel 4, Dieu contrôle tout ce qui se passe à la terre. Il élève les hommes, il abaisse les hommes. C'est lui qui établit les gouvernements. Autre principe, dans Deutéronome 32, on a vu que Dieu établissait les nations autour de la nation d'Israël et qu'il contrôlait parfaitement toutes ces choses-là pour des raisons sages et dans des buts précis. Et ensuite, on apprend dans Acte 17 que toute tentative de vouloir montrer qu'une race est supérieure à une autre est complètement brisée au départ parce que les Écritures disent que tous les hommes viennent d'un seul sang. Alors, c'est important. Il y a des choses d'une importance capitale Autre chose que les généalogies sont utiles, c'est qu'elles sont christocentriques. Là, le mot Christ est à l'intérieur de ça, centré autour de Christ. Si vous prenez les généalogies, sont toujours données dans un but de nous faire voir une lignée. Fils de un, fils de l'autre, fils de l'autre, fils de l'autre. Et ici, dans Genèse 10, il ne nous donnera pas jusqu'à Christ. Mais si on va dans Matthieu 1, là, il va se rendre jusqu'à Abraham. Et dans Luc 3, il va se rendre jusqu'à Adam. Et quand on va y aller un petit peu dans ces passages-là, on va reconnaître certains noms qu'on vient de lire aujourd'hui dans Genèse 10. Comment on peut faire le lien, si on ne connaît pas Genèse 10, avec la lignée messianique? Il faut bien connaître Genèse 10 si on veut comprendre d'où Christ est descendu. Si on veut établir la généalogie de Jésus-Christ, on ne peut éviter de passer par... Parce que quand on va lire Luc 3, on va se rendre compte que plein de noms qui sont mentionnés, qui sont dans Genèse 10, et qui nous disent d'où vient tout cela. Et on serait porté à dire, ça s'arrête là, les généalogies, là, toutes les raisons que je viens de vous donner, mais je vais vous en ajouter un autre. Le côté scientifique. Aujourd'hui, il existe des sciences, une science en particulier qui s'appelle l'ethnographie. Ethno, ça veut dire nation. Graphie, ça veut dire où ils sont situés, leurs sources, leur origine et tout cela. L'ethnographie, c'est l'étude descriptive des groupes humains ou des ethnies, de leurs caractéristiques anthropologiques et sociaux. Maintenant, je vais vous donner l'opinion d'un des plus grands ethnographes de la Terre, William F. Albright, qui nous dit que le chapitre 10 de la Genèse est le document le plus précis qui peut se trouver quand les hommes cherchent à expliquer l'ethnographie. Alors, c'est quelque chose, quand on parle... Et William Albright, là, c'est pas un chrétien, c'est un scientifique du monde. Voici ce qu'il dit. Je vais vous le dire en anglais, et je vais vous le traduire en français ensuite. Il dit, du chapitre 10 de la Genèse, « It is an astonishing accurate document ». C'est, en traduction libre, c'est un document d'une précision ahurissante. Après ça, il va dire, « There is no comparable catalogue of ancient nations available from any other source. It is unparalleled in its antiquity and comprehension. » On va traduire. « Il n'y a aucun autre catalogue des anciennes nations qui soit disponible venant de toute autre source qui lui soit comparable. Il est sans parallèle, le chapitre 10, il est sans parallèle dans son antiquité et dans sa compréhension. Autrement dit, tout ethnographe, qui veut comprendre l'histoire de l'origine des nations, le document le plus précis, et il en parle comme une précision ahurissante. Autrement dit, l'étude des hommes, ils finissent par découvrir un paquet de choses, et quand ils ont fini de les découvrir, ils se rendent compte, ben oui, mais la Bible disait déjà tout ça. La Bible disait déjà tout ça. Alors, c'est intéressant, moi je trouve que c'est très intéressant de pareilles observations. Et le chapitre 10 nous est donné aussi pour une autre raison, c'est que ça nous prépare à ce qui s'en vient dans le chapitre 11, qui va être la tour de Babel, et ça nous prépare aussi sur le développement des idées de la future venue du Messie que le Seigneur va donner à Abraham. Mais comment peut-on comprendre Abraham si on ne sait pas d'où il sort? Alors, le chapitre 10 a pour but de nous préparer à ce qui s'en vient. La Bible travaille de façon très intelligente. Mais on va voir tantôt quelque chose d'assez particulier. J'aimerais ça que vous portiez attention. Parce que moi, j'avoue que c'est en l'étudiant plus en profondeur que je l'ai découvert. Je trouve ça assez extraordinaire. Dans le verset 5 du chapitre 10, on dit que les nations de Japhet se sont répandues selon leur langue. Et trouvez-vous qu'il y a une anormalité, là, parce que où on apprend que le Seigneur a changé les langues des hommes? Parce qu'à un moment donné, dans le chapitre 11, on nous apprend que tous les hommes avaient le même langage, la même langue. Et là, on est dans le chapitre 10 et il est en train de nous parler que les hommes vont se répartir selon leur langue. Alors ici, il y a quelque chose d'important, c'est que le Seigneur parle de langue alors qu'il va, il va expliquer pourquoi il y a différentes langues sur la terre uniquement dans le chapitre 11. Mais, autrement dit, c'est pas une erreur. C'est que chronologiquement, le chapitre 11 devrait être donné avant le chapitre 10. Cependant, le Seigneur a voulu qu'on voit les descendances des trois avant qu'il nous explique comment les langues sont arrivées sur la terre. Mais j'avoue que je ne l'avais jamais vraiment pensé. Et dans le chapitre 5, tu dis, il parle des langues, et c'est juste dans le chapitre 11 qu'il nous parle l'origine des langues. Et là, dans le chapitre 10, il en parle comme un fait établi. Alors, si le fait est établi, où on apprend que... Parce que dans le chapitre 11, on va apprendre, « Or, les hommes avaient tous le même langage, et à cause du péché... » De vouloir construire la tour de Babel, le Seigneur a confondu les différentes langues. Alors, c'est des choses qu'on ne porte pas vraiment attention. On passe là-dessus comme l'eau sur le dos d'un canard. Pourtant, il y a des choses importantes que le Seigneur veut nous montrer par ces choses-là. Donc, on va commencer par les cinq premiers versets. « Japhet, un outil d'expansion. » L'idée divine d'inclusion des nations dans le salut parcourt toutes les Écritures. Voyez-vous, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que les Juifs croyaient? Les Juifs croyaient que le salut, c'est nous, et les nations, c'était pour eux, c'était comme quasiment des déchets, là. Pour eux, bon, le salut, ça ira pas à eux autres, c'est nous. Puis quand quelqu'un voulait venir, fallait qu'il soit, il appelait ça un prosélyte. Alors, quand quelqu'un voulait venir à la nation juive ou comprendre le salut selon la compréhension juive, il fallait qu'il devienne un prosélyte. Autrement dit, il fallait qu'il apprenne la loi de Dieu. Il fallait qu'il s'y conforme. Fallait qu'il obéisse à tout ce que les Juifs étaient obligés d'obéir à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que c'était le seul moyen qu'une personne pouvait utiliser pour venir au Seigneur et obtenir le salut. Pourtant, dans les Saintes Écritures, le Seigneur donne beaucoup. Voyez-vous, on va commencer par un verset dans l'Apocalypse. Hein, bizarre, on est dans Genèse, mais on va aller dans l'Apocalypse. Mais il y a un lien entre les deux. On va aller dans l'Apocalypse, chapitre 7, et versets 9 et 10. Ça dit, « Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Voyez-vous, on est à la fin. L'Apocalypse, c'est le livre de la Révélation, c'est le livre de la fin. Et on voit qu'il y a une multitude de personnes qui ont été sauvées. Mais ça dit que ce n'est pas juste des Juifs. Ça dit de toute nation. Donc, peu importe votre nationalité, j'en vois au moins 3 nationalités ce matin dans l'Assemblée. Peu importe votre nationalité, il va y avoir des gens de votre nation qui vont être devant le trône, comme ça se dit ici. Et non seulement cela, mais il va y avoir toute tribu, il va y avoir tout peuple, il va y avoir toute langue. Important de voir comment Dieu avait prévu. Déjà, on le voit par la fin. Là, on est rendu à la fin. Et on nous montre que Dieu avait l'idée d'inclure les nations dans le salut de Jésus-Christ était déjà présente. Alors, comment on peut apprécier la signification de cette scène d'Apocalypse si on n'a pas compris le chapitre 10 de la Genèse? Parce que le chapitre 10 de la Genèse fournit l'arrière-plan de tout cela. Voyez-vous, on parle d'expansion. Là. Alors, on vient de parler de l'expansion qui est accomplie dans le livre de l'Apocalypse. On arrive à la fin, les nations sont là et ils disent « Le salut vient de son devant le trône, le salut vient de notre Dieu et vient de l'agneau. » Maintenant, on va parler de l'expansion commandée. Là, on est 2000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, est-ce qu'il a parlé que le salut ne s'adressait pas uniquement aux Juifs? Bien sûr, parce que si on regarde Matthieu 28, qui est le dernier chapitre du livre de l'Évangile de Matthieu, on va lire la chose suivante, verset 18 au verset 20. « Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus est venu 2000 ans après ce qu'on est en train d'étudier dans le jeu, Jésus est encore en train de dire à ses disciples, allez de par le monde, annoncez mon évangile, parce que l'évangile s'adresse non seulement aux Juifs, mais s'adresse à toutes les nations. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres passages dans les saints? Comment ça se fait que les Juifs comprenaient que c'était uniquement eux autres? Il y avait une compréhension de la théologie qui n'était pas basée, qui était basée en partie sur les saintes Écritures, mais basée aussi sur une fausse compréhension, une mauvaise compréhension. Par exemple, il y a plusieurs chapitres dans les Écritures qui nous parlent que Dieu voulait envoyer le Messie. Et la première chose, la première contribution que le Seigneur a faite, il a promis à Noé que la terre demeurerait stable jusqu'à l'arrivée du Messie. Et quelle était cette promesse, le fameux arc-en-ciel? Il a dit qu'il ne détruirait plus la terre, même si les gens deviendraient aussi méchants. Ils sont devenus, effectivement, aussi méchants que lorsqu'il les a détruits. Mais il n'a pas voulu les détruire. Il a dit qu'il maintiendrait la stabilité de la terre aussi longtemps que le Messie serait arrivé. Et maintenant, il faut se souvenir d'une chose aussi, que le Seigneur avait commandé aux hommes de se répandre sur toute la terre. On pourrait voir ça dans Genèse 1, 28, dans Genèse 8, 17, dans Genèse 9, 1 et verset 7. On pourrait tout aller voir ces versets-là. Mais dans le fond, l'idée, c'est que Dieu voulait, avait commandé que les hommes se répandent sur toute la terre. Alors, l'intention de Genèse 3, 15, qui était la promesse initiale, quand il dit « Je mettrai amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. » L'intention divine d'étendre le salut aux nations est déjà perçue dans Genèse 3, 15. Elle va être exprimée un petit peu plus tard. On est en train d'étudier la Genèse. C'est d'une importance extrême pour comprendre comment le salut est arrivé aux hommes. Dans Genèse, chapitre 12, alors chapitre 10 est en train de nous préparer à l'arrivée de la tour de Babel et la confusion des langues. Et dans le chapitre 12, pas bien longtemps après, on va arriver à notre ami Abraham, dont on dit de lui qu'il est le père des croyants. Et dans Genèse chapitre 12, il y a une promesse qui est faite à Dieu, qui est très importante. Il dit « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Verset 2, « Et je te ferai devenir une grande nation. » Autrement dit, Abraham va devenir la nation d'Israël. « Et je te bénirai. » Et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Est-ce que le nom d'Abraham est grand aujourd'hui? Même encore aujourd'hui, après toutes ces années, Abraham est encore connu, cité, parlé dans toutes les Saintes Écritures, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et le verset 3 est très important. Et c'est Dieu qui parle. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On parlait des semences tantôt. On l'a vu la semaine dernière. On va le revoir pour voir le lien que le Seigneur est en train de vouloir qu'on saisisse. Galates 3:16. Ici, on vient de voir les promesses que Dieu a faites à Abraham. Mais dans Galates 3:16, on va voir un principe d'une importance extrême parce que c'est le Nouveau Testament qui interprète l'Ancien. Voyez-vous, ça dit, dans le verset Galates 3:16, « Or, les promesses, ne plus qu'une, je ferai de toi une grande nation, je te répandrai sur toute la terre, tu seras une bénédiction. » Et il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » À première vue, quand on lit ça, on est porté à comprendre quoi? Que la postérité, c'est les enfants d'Abraham et les futurs enfants, tout jusqu'à Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça que l'Écriture voulait dire? Non, parce que voyez-vous, ça dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et à sa postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. Et à ta postérité, et là l'Écriture nous dit, qui est Christ. Voyez-vous, dans les Écritures, la personne de Christ est centrale. Là, on apprend que le Messie va venir et que toutes les bénédictions qui ont été données à Abraham vont l'être dans sa postérité. Et là, on nous dit, c'est qui sa postérité? Ces promesses-là vont se réaliser en Jésus-Christ. Nous, si on est bénis, on va être bénis à cause qu'on fait partie de la postérité de Christ et on va être bénis de ce que Dieu avait promis à Abraham. Voyez-vous, autre chose, si on va dans le chapitre 10, de la Genèse, dans les versets 5 et le verset 32, deux choses qui sont annoncées. Il y a deux faits qui sont mentionnés. Dans le verset 5, ça dit « par eux ». Et quand il dit « par eux », il fait référence à qui? Les descendants de Japhet. « Par eux furent peuplées les îles des nations dans leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille et selon leur nation. » Voyez-vous, dans le chapitre 5, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà pensé comment ça se fait qu'il parle de langue ici puis il ne nous avait pas encore expliqué comment ça se fait quelle était l'origine des langues? C'est la preuve qu'on lit l'Écriture rapidement. C'est la preuve qu'on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on lit. Alors, et le verset 32, ça dit « Toutes les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. » C'est en train de nous dire que toutes les nations de la terre qui se sont répandues sur la terre après le déluge, c'est Dieu qui a permis cela. Alors, maintenant, si on va dans les versets 1 à 5, là, il nous parle de différentes choses. Rappelons d'abord la signification du nom de Japhet. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il étende. Qu'il étende. Alors, une des bénédictions que le Seigneur a voulu donner à Japhet, dans la signification de son nom, c'est vraiment l'expansion des nations sur toute la terre, que Japhet contribuerait à cela. Et comment on peut apprendre cela? Voyez-vous, je n'ai pas voulu aller dans tous les noms, parce qu'il y en a trop, mais j'ai voulu retenir les sept principaux descendants de Japhet. Il y en nomme sept. On parle de Gomer, premier. Alors, les descendants de Gomer, selon les spécialistes, ce seraient les Cimériens, C-I-M-M-E, accent aigu, R-I-E-N, qui eux-mêmes ont eu des descendants. Voyez-vous, je vais vous les nommer, ça va aider à comprendre l'expansion. Les Français, les Britanniques, les Espagnols et les Allemands, qui ont tous joué un rôle dans le peuplement de la terre par la colonisation. Les Français sont allés... Nous, on est ici, en Amérique du Nord, à cause de quoi? Parce que les Français, en 1500, sont venus ici. En 1608, ils ont fondé Québec. Et nous, on est tous les descendants de ces gens-là. Alors, Gomer, ce sont les Français, les Britanniques, les Espagnols et les Allemands. Les Espagnols, est-ce qu'ils ont joué un rôle dans l'expansion des hommes sur la terre? L'Amérique du Sud, fondée par qui en général? Les Espagnols. Les Anglais sont allés aux Indes, sont allés partout. Alors, ces nations-là, qui sont des descendants de Gomer, ont grandement contribué à répandre les hommes sur toute la terre. Maintenant, on parle d'un autre descendant de Japhet, Magog. Les descendants sont les Scythes, S-C-Y-T-H-E-S, qui eux-mêmes eurent pour descendants les peuples russes. Voyez-vous, on parle de l'Europe, on parle qu'ils se sont répandus en Russie, dans ce coin-là. Madai, les descendants, les Mèdes, qui eurent eux-mêmes pour descendants les peuples de l'Inde, de l'Irak et de l'Iran. Voyez-vous, l'idée, là, on la voit, qu'il s'étend. Il s'étend partout, en Asie, en Europe. Maintenant, un autre qui n'est pas à rejeter non plus, que vous allez sûrement, on va sûrement revenir très souvent là-dessus dans les Saintes Écritures, Javan. Javan, c'est les Grecs. Quand Jésus est venu, l'influence la plus grande qu'il y avait à l'époque, c'était les Grecs. Pourquoi le Nouveau Testament était traduit? Pourquoi le Nouveau Testament était donné en grec? Parce que les Grecs, à l'époque, c'était l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. C'était la langue universelle. Alors, Javan, c'est l'origine des Grecs. Ensuite, on a Tubal, qui serait les Turcs. Méchec, les Slaves. Les Slaves qui eurent eux-mêmes pour descendants les habitants de la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, la Yougoslavie. Voyez-vous, on a l'Europe, on a ces gens-là ont voyagé vers l'Amérique du Nord, vers l'Amérique du Sud, vers l'Asie, la Turquie, l'Iran, l'Irak. On est en train de voir qu'est-ce que les hommes font à cause du commandement de Dieu et à cause du jugement qu'il y a eu après la Babel, l'expansion des hommes sur toute la terre. Parce que ça faisait partie du plan de Dieu d'accorder le salut à tous ces gens-là. Et on parle du dernier nom, Tiras. Les descendants de Tiras sont les Étrusques qui eurent eux-mêmes pour descendants, les Italiens et les habitants de Rome. Voyez-vous, déjà on est en train d'apprendre l'origine des Romains. Qu'est-ce que Jésus, quand Jésus est venu, quelle était la nation qui dominait partout? Les Romains. Alors voyez-vous, déjà dès Genèse 10, on voit de qui descendaient ces gens-là et qui avaient une influence énorme. Alors, il y a seulement deux fils sur les sept qui voient que les Écritures vont mentionner leur postérité. Si vous étudiez le texte avec attention, vous allez voir qu'il y a eu sept fils, Japhet, mais que sur les sept, les Écritures donnent seulement deux fils auxquels la descendance est nommée avec des noms très, très précis. Et là, on peut se demander la question, on se pose rarement cette question. Pourquoi le Seigneur n'a pas donné les descendants des saints? À cause du rôle que ces gens-là vont jouer dans le salut et dans le rôle qu'ils vont avoir avec Israël. Tout à l'heure, on a parlé de Deutéronome 32, comme de quoi que israélo-centrique. Les nations vont être placées autour d'Israël d'une certaine façon à cause du peuple d'Israël. Alors, les deux noms dont on mentionne les fils sont seulement Gomer et Javan. Gomer, on a vu tout à l'heure pour quelle raison. Tous ceux qui ont... On a parlé des Anglais, des Espagnols, des Français. Alors, il mentionne ceux-là parce qu'ils vont avoir un rôle important à jouer. Et l'autre qui est Javan. Javan, c'est les descendants. Leurs descendants, c'est les Grecs. Alors, les Grecs ont eu une importance énorme à jouer dans le développement de tout ça. Maintenant, on va finir par... Je savais que je ferais deux leçons parce qu'il me reste plusieurs points à donner. Mais je veux quand même aller dans... Quand on parle des îles et des nations, il y a des endroits dans les Saintes Écritures... Pourtant, les Juifs n'avaient pas... ils ne pouvaient pas dire « on est ignorant, c'est pas marqué nulle part ». T'as marqué, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient tellement sûrs que c'était juste uniquement eux. Si on va dans Ésaïe 42, on va y aller, on va terminer là-dessus. Ésaïe 42, les versets 1 à 4. Alors, on parle d'une prophétie. On est dans Ésaïe 42. On est en train de faire une prophétie sur la venue future du Christ. Et remarquez les mots qui sont utilisés. Parce que c'est très important pour faire un lien avec le texte d'aujourd'hui. On parle des îles des nations. On parle des nations qui vont se répandre partout sur toute la terre. Ésaïe 42, versets 1 à 4, qui est une prophétie sur Jésus-Christ, en passant. Et ça dit, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quand on lit le Nouveau Testament, dans les Évangiles, quand le Seigneur dit, « Je trouve mon plaisir en lui », on parle de Christ, bien entendu, hein? Et il dit, « J'ai mis sur lui mon esprit. » Et la dernière phrase du verset 1, « Il manifestera la justice aux nations, au pluriel. » Verset 2, « Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, ne s'éteindra pas et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. » Et le verset 4, où je trouve que c'est un verset tellement prophétique, ton Seigneur est en train de dire à qui le salut va s'adresser, pas uniquement aux Juifs. Voyez-vous, le verset 4 dit, « Il ne se ralentira ni se précipitera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et les îles espéreront en sa loi. » Tu es merveilleux. Je pense qu'on va arrêter là-dessus, mais il y aura encore d'autres passages à aller voir dans Ésaïe 49, dans Psaume 112, on va aller voir la semaine prochaine, où le Seigneur nous dit que déjà, là, prophétiquement, il y avait eu dans Genèse 10, mais plus tard, dans le développement de l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe en particulier, et quand Jésus est venu pour démontrer cette idée que le salut s'étendrait à l'ensemble des hommes de la terre. Et ensuite, on passera à comment Satan s'est servi des nations pour faire de l'opposition, souvent par les descendants de Cam. Et après, on va aller dans les descendants de Sem. Et on va aller voir le lien qu'il y a avec les descendants de Sem et le fameux Luc 3, où on voit que Jésus descend vraiment de la lignée de Sem. On va le voir de façon très, très, très claire. Alors, ces chapitres-là sont d'une importance extrême. On se doit de les étudier. Parce que souvent, des genres de chapitres comme chapitre 10, on ne les comprend pas si on ne les étudie pas. Il faut qu'il y ait quelque part, qu'on se force les méninges un peu. Il y a des choses qui sont dites et il y a des questions que ça soulève. Et souvent, la preuve qu'on les lit superficiellement, c'est qu'on ne les voit même pas. On ne le voit pas. Comment ça se fait qu'ils parlent de langue alors que les langues sont expliquées d'un chapitre plus loin? Alors, c'est le genre de choses qu'on n'observe pas si on n'étudie pas. Alors, on va terminer là-dessus. Notre Dieu, on veut encore une fois te rendre grâce, te remercier. On se rend compte de plus en plus, Seigneur, en étudiant les Saintes Écritures, en observant ce que tu mentionnes, que les promesses qui sont données dès Genèse 3:15 et se développent avec la promesse à Noé, de garder la stabilité de la terre jusqu'à l'arrivée du Messie, et plus tard vont se développer dans les promesses à Abraham à sa postérité. Et dans Galates 3:16, on a vu que la postérité d'Abraham, c'est vraiment Christ. Alors, Seigneur, on a vraiment besoin de voir que tu es le centre des Écritures et qu'on peut les comprendre uniquement lorsque on s'aperçoit que tu es le fil conducteur de tout cela. Alors, on te demande de permettre qu'on soit encore davantage conscientisé sur l'importance de l'étude des Écritures pour en apprécier encore davantage leur valeur et leur beauté et toutes ces choses-là. On te demande cela en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.